commence, je fais tomber toutes les petites notes qui sont dans la Bible. Tout le monde va bien? Froidement? Bon, vous avez vu, ça se réchauffe. On n'a pas eu besoin de gratter les pare-brise ce matin. C'est bien, je pense, demain matin. C'est le réchauffement de la planète, voilà. Demain matin, on verra où est la fuite. Je pense. Bien. Je vous invite à lire Actes chapitre 17, verset 28. Notre frère Alain a été visité par des anges qui ont chanté pour lui. Et je suis content d'avoir écouté son témoignage. Et je voudrais vous dire que j'étais dans la chambre, dans notre chambre avec Michou. Et tout à coup, j'ai vu un ange passer devant la fenêtre. J'ai dit, mais qui c'est? Et j'ai regardé. Et il n'y avait pas de trace de pas dans la neige, rien. Mais je l'ai vu comme je vous vois. J'ai dit, ah Seigneur, tu réconfortes mon cœur, merci mon Dieu, amen. Ah, chérie, ça fait plaisir, ça fait du bien. De temps en temps, comme ça, un petit quelque chose. Les anges étaient très présents quand vous lisez la Bible. Ils étaient très présents. Et puis nous autres, c'est parce qu'on n'en parle pas assez, on ne fait pas assez attention. Mais si on remplit nos pensées, nos cœurs, des choses réelles, de Dieu et non pas simplement des choses réelles de ce monde, eh bien, Dieu de temps en temps permet que soit nous entendions un chant céleste, ou alors que nous voyons un ange nous apparaître, c'est très beau. Ça fait plaisir. Ça fait tressaillir dans l'esprit. Acte 17, verset 28, vous ai-je dit. Hein? Car en lui nous avons la vie. Le mouvement est l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi mettre un voile sur ce beau texte? Regardez où vous voulez. Dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, tout ce que vous voyez se trouve en Dieu. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas. En Dieu, nous avons le mouvement et l'être. En lui, rien que ces deux mots donnent le vertige, en lui, ça laisse comprendre qu'il n'y a pas hors de lui. Il n'y a rien en dehors de lui. La mort, un jour la mort ne sera plus. Quand tout ce qui sera arrivé au point où Dieu veut, eh bien, la mort ne sera plus. Là, il va y avoir un néant. Un jour vient où la terre et le ciel n'auront plus leur place devant Dieu. Ils s'enfuiront de devant Dieu. Apocalypse 20, 11. Mais où vont-ils pouvoir s'enfuir? Il n'y a rien en Dieu. Ils s'enfuiront où? Dans le néant. C'est une façon de parler avec des mots limités, dans un système limité, pour nous faire comprendre qu'ils iront dans ce qui n'est pas. C'est-à-dire, ils ne seront plus du verbe être. Car seule notre place en Dieu nous assure l'être. Ce qui est, c'est en Dieu. Puis la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Ainsi, la mort ne sera plus. Ainsi, le séjour des morts ne sera plus, lui et tout son contenu. 1 Corinthiens 15, 27, la mort, le dernier ennemi, sera donc ainsi réduit à l'impuissance. C'est-à-dire, il ne sera plus. Le diable et tous ses suppôts ne seront plus détruits, éliminés. C'est pourquoi l'étang de feu est éternel. Alors, bon, il y en a qui disent, non, l'étang de feu n'est pas éternel. D'autres disent, oui, il est éternel. Moi, je vais vous dire, il n'est pas éternel parce qu'il n'est pas, mais il est éternel dans le sens que, écoutez bien, Dieu déversera pour toujours ce qu'il ne veut plus en lui. C'est ça la seconde mort. Ce qui n'est pas en Dieu n'est pas. Et comme Dieu est éternel, ce qui n'est pas en éternel n'est pas éternellement. Voilà en quoi l'enfer, le séjour des morts et tout ça, ça sera jeté dans une éternité, si vous voulez. C'est ça le grand but de Dieu. Parce que Dieu, connaissant en lui-même le bien et le mal, on trouve ça dans Genèse 3, il n'en veut plus. Il ne veut plus de ça. Il a donc manifesté le bien, et donc le mal, dans cette création de dualité, il l'a voulu ainsi. Rien ne peut exister sans avoir son contraire, c'est comme ça que Dieu l'a créé, il l'a fait exprès. Et par un long processus, il laisse croître le bien et le mal ensemble dans le système créé. Et quand le bien et le mal seront mûrs, portant visiblement leurs fruits, quand ils auront atteint leur comble, alors il enverra ses anges pour éliminer le mal. Dans la parabole de Matthieu 13, c'est livré, pour l'extirper et que cela ne paraisse plus jamais, d'une façon éternelle. Or, actuellement, le blé et l'ivraie se nourrissent de la même terre. Dieu laisse faire. Tout est là, en lui. Plus, je dirais même qu'il favorise l'accroissement de l'ivraie. Il n'y a qu'à regarder dans la nature, hein? L'ivraie pousse plus facilement que le bon grain. On dirait que... C'est vrai que quand on regarde dans le monde... Il y a des gens qui sont un petit peu flippés, puis ils disent « Oh, il y a plus de bonnes personnes, il se passe beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. » Ils sont un peu des flippés, hein, les gens comme ça. Pas besoin d'école pour apprendre à faire le mal. Ça vient tout seul quand on a une nature d'ivraie. Et mes enfants, ça pousse. En lui, nous avons l'être, nous sommes le blé, ou nous sommes l'ivraie. Mais il n'y a que l'ivré qui reçoit la vie éternelle, le privilège de vivre éternellement, d'être éternellement avec Dieu, en Dieu. Dieu faisant grâce à chaque grain de blé particulier, en particulier, à chacun de ses enfants en particulier, il connaît nos noms, il connaît même le nom de nos cheveux, j'en ai moins ce matin que hier. Il est le Dieu de l'immensité, et de l'infiniment petit, le tout petit détail, le plus petit. Compte nos cheveux, comme je vous dis. Chaque goutte de pluie qui tombe, tombe sur son ordre. Il nourrit les petits oiseaux. Psaume 147, verset 9. Et chacun de ces petits oiseaux, il n'y en a pas un qui tombe sans la volonté de Dieu. Matthieu 10, 29. On les compte. Alors les cyniques vont dire, oui, il ferait mieux de s'occuper des choses importantes plutôt que de s'occuper des oiseaux et des cheveux. C'est parce qu'ils n'ont aucun respect. Ils montrent que dans leur cœur, il n'y a aucun respect. Il est le grand Dieu de l'immensité qui s'abaisse jusqu'à nous dans l'infiniment petit pour agir en notre faveur. On trouve ça dans Psaume 113, versets 5 et 6. Le monde n'a pas été créé pour nous. C'est là que même, je lisais ça dans la Bible, l'Esprit est vie de nos frères et sœurs pentecôtistes, Assemblée de Dieu des États-Unis, disait Dieu a créé le monde pour nous. Mais c'est faux. Dieu a créé le monde pour lui. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Il l'a créé pour lui. Qu'avait-il besoin de cet univers? Qu'avait-il besoin de cette bonne vieille planète Terre? Il avait... Pourquoi? S'il l'a créé, c'est parce qu'il en avait besoin. Pourquoi il l'a créé? Eh bien, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Pourquoi? Pour se débarrasser de ce qui est mal. Tout ce qui se passe ici-bas se passe dans l'espace-temps. Tout ce qui se passe ici-bas n'est que la matérialisation, la réalité matérielle du combat spirituel qui est en Dieu. En Dieu, tout est un. Mais dans ce que Dieu a créé, apparaît la dichotomie. Dieu l'a voulu ainsi. L'apparition de ce que sont les choses par rapport à leur contraire. C'est déjà un tri qui est fait. Vous voyez? Dans la création. C'est un tri qui est fait, déjà. Ainsi, le mal est tout premièrement personnifié. Satan est meurtrier dès le commencement. Il y en a qui excusent le diable en disant qu'il était créé parfait, tu étais en Éden, tu mettais le sceau à la perfection, mais ça n'est pas un texte qui parle du diable, c'est un texte qui parle du roi de Tyr. Il faut arrêter. C'est les théologiens qui vous ont dit que c'était un texte qui s'adressait, qui typifiait le diable, mais pas du tout, c'est une erreur. Où est-ce que vous voyez Satan qui met le sceau à la perfection en Éden? Vous voyez ça, vous, dans la Bible?
Non.
Le mal, la Bible nous dit, Satan est meurtrier dès le commencement. Il était créé comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que je comprends, puisque c'est ce que la Bible dit en français. Et moi, je comprends le français. Les mots sont là. Et ensuite, tout vient à maturité. C'est-à-dire que le meurtre se manifeste. C'est-à-dire que toutes ces choses se manifestent dans des actions produites selon la nature de chaque créature en particulier. On reconnaît l'arbre à son fruit. Ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais les actes. Harry Potter, c'est du diable. Ben, n'empêche qu'il y a une très jolie phrase dans un de ses livres. C'est un moment où Sirius Black, le parrain de Harry Potter, parle à son neveu. Enfin, je crois que c'est son neveu. Il lui dit, parce que Harry Potter dit, je trouve qu'il y a quelque chose de Voldemort en moi. Il y a quelque chose de mauvais en moi. Je sens quelque chose de mauvais gronder en moi. Et j'ai peur. Je crois que je suis mauvais. Et son parrain lui dit, non, ce ne sont pas les intentions, les sentiments, les impressions qu'on a ou les tentations qu'on a, mais c'est ce qu'on fait qui démontre ce qu'on est. Et ça, j'ai trouvé très très beau. Voilà. Bon, on peut le trouver ailleurs que dans le livre d'Harry Potter, ça c'est sûr. Mais c'est juste pour un petit clin d'œil pour nos frères et sœurs un peu sectaires. On va encore dire que je suis mauvaise et que j'arrête pas de dire des choses gna gna gna. Ben, bon, ben voilà, c'est moi, je suis comme ça. Je suis mauvaise, si vous voulez. Même si vous sentez le mal gronder en vous sous forme de tentation, sous forme de tendance, ça ne fait pas de vous le délivrer. C'est vos actes qui montrent ce que vous êtes. Et encore, les actes mauvais commis par un élu ne paraissent pas dans la comptabilité divine. Le sang de Jésus-Christ lave tout ça. Alors, et là, c'est une question de foi. Si j'ai foi en cela, je montre que je ne suis pas délivré. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous voyez comme c'est parfait, comme l'Écriture est parfaite pour que nous puissions être dans un parfait repos, dans une tranquillité totale. Et pour ce qui nous arrive, eh bien, il fait lui-même toute chose. Vous croyez que vous êtes libre de faire comme vous voulez? Eh bien, croyez-le, mais ça ne changera rien du tout à ce qui va se passer dans votre vie, hein. Moi, je me range du côté des prophètes, comme par exemple Jérémie, qui disait « Je le sais, Éternel, la voix de l'homme n'est pas dans son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Jérémie, chapitre 10, verset 23. Moi, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Prenons le cas le plus sensible de la Bible. Judas. A-t-il trahi son maître pour 30 deniers? C'est ce que la Bible dit. Mais en réalité, non. Ça, c'est pour donner au lecteur superficiel une lecture superficielle. Il l'a vendu pour 30 deniers. Mais la lecture spirituelle plus profonde, c'est qu'il était né pour ça. Il n'a pas pu le trahir quand il a voulu. Il l'a trahi à la minute précise qui avait été destinée à l'avance. Jésus, quand il était pris par la foule pour être précipité dans le ravin, c'était pas son heure. C'est écrit, c'était pas son heure. Il y avait une heure pour ça, pour qu'il meure. Et l'heure, c'était à ce moment-là, à la Pâque, et il fallait que Judas trahisse là, et pas n'importe quand. Jésus savait que ce serait Judas qu'il trahirait. Les prophètes avaient même dit avec force détail tout ce qui se passerait ce soir-là, la somme d'argent, le lieu qui serait acheté ensuite avec cet argent, le nom de ce lieu, etc. Zacharie 11, 12, 13. C'est écrit. Que pouvait-il bien faire? Rien. Que ce qu'il était prédestiné à faire. Et ça arriva comme ça avait été programmé. Est-ce injuste? Non. Je vais vous dire, ça aurait été injuste si c'était tombé sur un enfant de Dieu qui avait été choisi pour trahir. Supposons que Pierre se mette à trahir. Non, il a seulement renié, pas trahi. Jean 18, 9. Je vous le lis. Jean 18, 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Mm-hmm. Quand Dieu donne, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Mais alors pourquoi Judas faisait partie de l'équipe? Dans le but de trahir. Voilà, il fallait quelqu'un qui trahisse et c'est tombé sur lui parce que c'était choisi. Ce n'était pas un enfant de Dieu. Il n'a perdu aucun de ses enfants. Jésus, Dieu, n'a perdu aucun de ses enfants. Alors Judas, c'était quoi? Ce n'était pas un enfant de Dieu? Ben non. Judas, c'était un démon. C'est écrit dans Jean chapitre 6, verset 70. Vous voyez, il faut avoir une autre lecture que simplement la lecture gna gna gna. Hein? Le doux Jésus, sondez les Écritures. Il n'était pas enfant de Dieu à cause du mal qu'il faisait. Il manifestait le mal parce qu'il était mal, parce qu'il était un démon. Et pourtant, il était en Dieu. Mais comment voulez-vous qu'il soit ailleurs qu'en Dieu? Tout est en Dieu. Il n'y a rien en dehors de lui. Voilà ce qu'en dit le Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Judas, il a été... C'est malheureux le pauvre, enfin bon. Voilà. Judas, il a dirigé ses pas vers ceux à qui il allait vendre Jésus. Mais qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Peut-être qu'il se passait dans sa tête, bon, je vais le secouer un peu, le Jésus, là. Il est en train de s'endormir. Il est venu pour libérer Israël. Donc, je pense qu'en le mettant dans une situation de jusqu'au bout, il va se sentir poussé à bout et va être obligé de réagir. Il va obligé de se manifester comme le libérateur d'Israël. C'est peut-être ça qu'il avait dans sa pensée, Judas. Puis du coup, en plus, si je peux leur piquer 30 deniers, ben, ça ne sera pas plus mal. Vous comprenez? C'est peut-être ça qui s'est passé dans sa tête. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous lire là. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Il ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Et c'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Judas ne sera jamais jugé pour ça. Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Oh, personne ne sera condamné pour le mal qu'il a fait. Ils ne seront jetés dans les temps de feu et dans le néant que ceux qui n'ont pas la nature de Dieu. Point final. Moi, c'est ça que je crois. Alors évidemment, afin que nous ayons un minimum de sécurité sur cette terre, Dieu a donné la loi afin que nous sachions et que nous puissions nous guider, nous diriger, et puis qu'il y ait des transgressions qui soient punies, etc., etc. Mais en réalité, c'est ni le bien ni le mal qui fait qu'on va aller en enfer, c'est la nature. La nature, le blé ira dans les greniers de Dieu, l'ivraie ira dans le feu, selon la nature. Alors, que ceux qui ne croient pas ce que je dis m'expliquent comment l'homme, à son mouvement naturel, venant de l'inclination de sa nature, mais qu'il tourne ça et là comme bon lui semble. Après avoir lu ce qu'on vient de lire, expliquez-moi comment vous pouvez justifier bibliquement que vous pouvez tourner là, à gauche ou à droite, selon ce qui vous semble bon. Vous qui voulez être biblique. Si ce qu'ils disent est vrai et si ce que je dis est faux, ça signifie que l'homme aurait la disposition de ses voies dans ses propres mains. Or, c'est tout à fait le contraire qui est écrit. Chacun d'entre nous, la Bible dit, nous pouvons former des projets dans notre cœur, mais c'est Dieu qui décide ce qui se fera réellement. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Proverbe 16:1. Donc vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ah voilà, demain je vais aller faire telle affaire, et puis je mettrai 10% pour la dîme, et puis je mettrai 10% de côté pour pouvoir ensuite investir, et puis ensuite une fois que j'aurai tant d'argent, je m'achèterai ceci, puis je ferai cela, et comme si vous pouvez penser, mais Dieu rigole, il vous laisse penser ce que vous voulez, ça c'est joli, c'est mignon, puis ça fait plaisir, hein? Et puis on ira, l'autre jour j'ai dit à Michel, écoute, on ne se fait pas de cadeau à Noël, mais on va aller au solde, on ira acheter des belles choses, parce que chaque année, chaque fois que c'est le moment des soldes, on a tout dépensé à Noël, on n'a plus d'argent. Donc on va aller au solde, puis on va se payer des belles choses. On arrive au solde. Mais quelle horreur, les soldes! Mais on est allé dans des magasins magnifiques, on aurait dit que c'était le souk, la friperie. Mais c'est horrible! Mais ils mettent là, dans les étalages, tout ce qu'il y a de plus moche. On se demande comment c'est possible qu'il y ait des gens qui ont créé des choses aussi laides. Et pourtant, on n'était pas dans les magasins de plouquins, chéri. C'était des jolis magasins. Michou a trouvé un pantalon par hasard sous une frite. Et puis moi aussi, j'ai trouvé deux pantalons qu'il faut reprendre derrière parce qu'ils ont une espèce, on dirait le derrière de Donald. Donc il faudra. Je l'ai pour 10 euros de réparation, vous voyez. Alors, on a pensé, ah, ça c'est génial, on va s'acheter des super fringues pendant les soldes. Ben, on a pensé ça, ça nous a fait plaisir pendant un temps. N'empêche que ce n'est pas ce qui s'est fait réellement. On est rentré à la maison avec presque autant d'argent que quand on est parti pour aller faire nos achats. Proverbe 16:1, c'est Dieu qui décide ce qui se fera réellement. Le monde, croyant dans son propre pouvoir, crie à l'injustice quand ils entendent ce que je raconte. Alors que Dieu dit, écoutez bien, un riche et un pauvre se rencontrent. C'est moi qui les ai faits l'un et l'autre. Proverbe 22:2. Quand vous rencontrez quelqu'un qui dit, je me suis fait tout seul. Dit Dieu, repris en cœur par les anges. Ainsi donc, Dieu t'a fait ce que tu es. Pourquoi toi qui es riche, mais de quoi te vantes-tu? Et toi qui es pauvre, de quoi te plains-tu? Oh, mais c'est cruel pour le pauvre. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Le joug imposé aux riches lui est imposé par Dieu. Est-ce que vous qui êtes pauvre, vous avez déjà pensé à ça? Le joug qui est imposé aux pauvres lui est aussi imposé par Dieu. Un peu plus loin, dans ses lamentations, Jérémie dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Hein? Et on aura terminé là. Et le psalmiste dit, ne vous glorifiez pas, n'élevez pas la tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vienne l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, versets 5 à 8. Ah bon? Ah bon? Qui abaisse?
Toutes les bêtises que j'ai faites.
Ils ont juste concouru à accomplir le plan de Dieu. Qu'est-ce qui élève? Mon intelligence, mon savoir-faire. Non. Ton intelligence, ton savoir-faire ont juste servi Dieu pour en arriver au point où lui voulait. Mais maintenant, s'il décide de t'abaisser, à toute l'intelligence que tu as, il t'abaissera. Tu n'y pourras rien. Et où est le diable dans cette affaire? Où est le diable dans cette affaire? À la même place que les meilleurs des anges. Il est serviteur de Dieu, faisant ce qui lui est dit de faire. D'où venait l'écaille pour nourrir les Juifs dans le désert? Nombre 11, 31. Moïse écrit que Dieu a ému un vent du midi pour apporter l'écaille. Il s'est servi du vent. Il se sert de n'importe quoi. Pourquoi ma conduite d'eau a-t-elle pété la nuit passée? N'en sais rien, mais Dieu le sait. Merci Seigneur. Louez-le en toutes choses. Amen. Vous voyez? Que voulait Dieu au jour de Jonas? Eh bien, il voulait que Jonas soit en danger. Alors l'Éternel fit souffler un vent impétueux sur la mer, une grande tempête. Jonas 1, 4. C'est le diable qui a fait ça? Non. La Bible nous dit que c'est Dieu qui fit souffler un grand vent. Une autre question. Pourquoi ces textes existent-ils? Eh bien, mes frères et sœurs, pour que nous apprenions. Mais si vous ne voulez pas apprendre, c'est que ça ne vous a pas été donné, c'est tout. Moi, je veux apprendre parce que ça m'a été donné. Toute écriture est inspirée par Dieu et est écrite afin et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est-à-dire dans ce qui est juste. Alors, 2 Timothée 3:16. C'est facile à retenir, 2 Timothée 3:16. Que vous enseignent ces textes qu'on a médités aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils corrigent dans votre pensée? Est-ce que ça corrige des choses dans votre pensée ou est-ce que vous dites « Cause toujours, j'entends. De toute façon, moi, je crois ce que je veux. » Tu peux même pas croire ce que tu veux. Tu crois selon ce qui t'a été donné. Puis, de toute façon, c'est très bien comme ça. Alors, ne nous fâchons pas, restons bons amis, et c'est bien. Mais moi, je vous dis ce que le Seigneur m'a donné, afin que ceux qui ont été prédestinés à comprendre, comprennent. Nous apprenons que ce n'est pas notre agitation qui nous donne le pain quotidien, ni la viande. Psaume 136, 25. Car Dieu est celui qui donne la nourriture à toute chair. Et en plus, il veut qu'on le prie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi? Afin qu'il soit glorifié. De toute façon, tout à l'heure, Alain nous disait que des anges criaient « Saint, 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 l'Éternel, Saint, 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 l'Éternel » tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu aime ça. Et il aime qu'on le prie, parce que quand on le prie « Mon Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », on montre qu'on est dans la bonne direction, dans le droit fil de la situation. Eh bien, voilà, c'est Dieu qui nous donne notre pain quotidien. Et nous, on remet notre sort à l'Éternel, disant « Seigneur, eh bien, j'attends de toi le pain que tu vas me donner. Merci, mon Dieu, et les démons.
Ah, ça m'énerve, ces histoires. Mais est-ce que c'est compliqué, ces trucs? Ça m'énerve, je comprends rien. C'est pas logique, c'est pas juste, c'est pas droit. »
Oui, ben, posez-vous des questions au sujet de la droiture de votre cœur plutôt qu'au sujet de la droiture du cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, les choses qui se décident dans le conseil secret de Dieu n'ont pas à être connues par l'opinion publique. On va lire Job 14, 1, 6. Ça vous plaît? Ah, moi j'aime. Job 14, 1, 6. Job 14, 1, 6. L'homme né de la femme, point d'exclamation. Alors, est-ce qu'il a dit l'homme né de la femme? Ou est-ce qu'il a dit l'homme né de la femme? Allez savoir. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur, s'il n'en peut sortir aucun? Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Vous voyez comment il pensait, Job? Tout le monde, ah, le livre de Job. Mais est-ce que vous avez réalisé ce qu'il croyait, Job? Il croyait comme moi. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, vous ne croyez pas ce que Job dit. Alors, pourquoi est-ce que vous aimez Job? Pour réfléchir un petit peu. Job savait très bien que tout a été fixé à l'avance par Dieu. Mes frères et sœurs, les analyses que nous pouvons faire au sujet de ce qui arrive ne sont que des échafaudages humains. Plus ou moins exact. Le conseil secret de Dieu tient des plans qui ne peuvent pas être cernés par notre raison limitée. Alors, on ne peut pas tenir des fichiers absolument certains pour affirmer que ceci et cela devraient se produire. Bon, c'est arrivé comme ça Abraham, il a agi comme ça, il est arrivé ça. Donc, il me semble que si je fais comme ça, ça va arriver comme ça. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est bien trop complexe. Il y a une marge importante de points d'interrogation, d'inconnu, qui permet que nous manifestions notre foi. Si nous n'avions pas manifesté notre foi, où Dieu se glorifierait-il de notre attachement à lui? Comment pouvons-nous gérer l'avenir? Notre foi nous permet de tenir toute chose en suspens, d'où le mot suspense, c'est-à-dire dans la patience, car on ne sait pas si les choses vont tourner comme ceci ou comme cela. Donc on est obligé, notre foi nous sert juste à être patient, à tenir les choses, les événements, les moyens que nous avons, les possibilités que nous avons, les choix qui semblent nous être faits. On tient tout ça en suspens. Notre foi nous sert là, non pas à obtenir ce qu'on veut, mais à accepter que le plan de Dieu est bon. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous voyez la profondeur de ces choses? Bien sûr que c'est un petit peu plus compliqué que « Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur ». Oui, c'est vrai aussi. Mais quand même, on peut aller un peu plus profond. Dans le monde, en face de l'avenir, beaucoup de gens ont recours au sort. Hein, les sorciers philistins le firent, en particulier dans l'histoire de 1 Samuel 6-9. On va le lire, 1 Samuel 6-9. Si je le trouve. 1 Samuel 6-9. Voilà. Alors, par exemple, au verset 8. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez, elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé
par hasard. Par hasard.
Vous voyez? Le problème, c'est que ces gens n'étaient pas en communion avec Dieu. Donc, ils pouvaient se tromper. C'est là le problème. Par contre, un enfant de Dieu remet son sort à l'Éternel, qui ne manquera pas d'agir pour son bien. Psaume 37, 4. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et comme il agit toujours pour notre bien, ce qui arrive, eh bien, merci Seigneur. Voilà où se trouve l'avantage d'avoir non seulement la foi, mais aussi d'être en communion vivante avec Dieu. C'est à cela que je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, en ce début d'année. Soyez en communion consciente avec Dieu. De toute façon, vous êtes en Dieu. De toute façon, on ne peut pas être ailleurs. Alors, soyez-en conscients, que cela vous rassure, que cela vous tranquillise. Pensez-y d'une façon tranquillisante. Et faites tout ce que votre main trouve à faire avec la force que vous avez. Ça, c'est aussi écrit. C'est Dieu qui vous le dit donc. Alors, faites-le. Faites-le et il fera réussir ce qu'il a décidé dès avant la fondation du monde. Soyez conscients, consciemment dans la communion avec Dieu. Et alors vous serez dans la paix, quoi qu'il arrive. Merci mon Dieu. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est là en effet ce que nous voulons, c'est être dans la paix. C'est vouloir te ressembler davantage. Et nous savons que pour toi les jours n'ont pas toujours été faciles non plus. Et nous te remercions parce que tu nous as montré les bonnes attitudes que tu gardais toujours. Et cette assurance totale en ton Père. Merci Seigneur de nous apprendre ces choses, afin que nous soyons toujours de plus en plus à ta gloire et que nous soyons de plus en plus sur ce terrain là où nous avons été plantés, mûrs et portant du fruit. Seigneur Jésus, nous te prions pour que tout vienne à maturité afin que le jour s'approche où tu enverras tes anges pour faire la moisson, où tu enlèveras premièrement l'ivraie pour la jeter au feu et où ensuite tu nous prendras dans tes greniers. Que ton nom soit béni, Jésus. Aide mes frères et sœurs à réaliser cela, plutôt que d'être hypnotisés par le serpent ancien quant aux choses de la vie courante et des détails. Merci Jésus. Amen.